Merci à vous les musiciens, Dieu vous bénisse. Eh bien, nous voilà encore réunis aujourd'hui, en ce dimanche, pour louer notre Seigneur, pour l'adorer. Gloire à Dieu, ça va bien? Le monde va très mal, mes frères et sœurs, très mal. Je ne sais pas si vous savez, je pense que oui. Et le monde évangélique va très mal aussi. Là, j'ai appris un serviteur de Dieu, grand prophète de l'Éternel. Ah là là, il a fichu sa femme dehors avec 5 enfants. Elle vit dans un cabanon au bord de la mer. Alors des grands pasteurs se sont réunis pour sermonner ce prophète extraordinaire, n'est-ce pas? Et ils en ont conclu qu'il n'était pas né de nouveau. Et puis, voilà, quelques semaines ont passé, cette femme est toujours au bord de la mer, dans une espèce de cabanon de briquet de broc avec ses 5 enfants. Et puis, ses pasteurs ont finalement invité ce prophète à prêcher à Ouagadougou, dans une grande église connue, en compagnie de tous ces braves pasteurs qui devaient prendre la défense de cette femme. Et ils sont là en ce moment, les mains levées devant Dieu, en train de louer le Seigneur, alors que le pasteur de cette grande église est un homme qui a épousé une femme divorcée et que le prophète qui va prophétiser sur les gens est un homme qui a jeté son épouse à la rue. Et voilà, et je ne vous donnerai pas les noms, je vous dirai simplement que c'est la plus grande église de Ouagadougou où ces choses se passent. Et qu'on vienne me dire que c'est nous qui sommes dans l'erreur. Et qu'on vienne me dire ça. Qu'on ose venir me dire ça. Mes frères et sœurs, il faut que Dieu jette sa lumière sur tout ça. Ça devient vraiment une pourriture, une ordure. Je ne vous donne pas les noms, mais c'est très facile à comprendre. Je pense que ceux qui me connaissent savent très bien de qui je veux parler. Voilà. Et puis tiens, la prochaine fois, je vous dirai les noms si vous êtes sages. Matthieu chapitre 5, verset 38. Voilà où on en est, n'est-ce pas? Voilà où on en est. Après ça, on dit, oui, frère Branham, il tapait sur les dénominations. Mais il avait raison de taper sur les dénominations. Il avait raison, cette bande de religieux parasites, mauvais comme des teignes. Enfin, Matthieu chapitre 5, verset 38, écoutez ce cas. C'est Jésus qui parle, et il dit, vous avez appris qu'il était dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tant lui aussi l'autre. Amen. Et vous asseoir, mes frères et sœurs. Eh oui. Est-ce que ces paroles signifient qu'on doit supporter toutes les injures, tous les coups, toutes les injustices, ou plus encore, est-ce que ça signifie qu'on doit s'exposer volontairement aux mauvais traitements? On va lire ce que le même Dieu disait aux gens au temps de l'Alliance ancienne, dans Exode 21, 33. Il disait, si un homme, attendez là, 21, 33. Eh bien, j'ai dû me tromper, c'est pas 21, 33. C'est 23. C'est 21, 23. Mais si... œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, plaie pour plaie. Voilà. Le même Dieu, hein. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il répète ça dans Lévitique 24, 20, et encore dans Deutéronome 19, 21. Bon, les bisounours vont me dire, oui, mais maintenant Jésus l'a dit, il faut tendre la joue droite. Si on frappe sur la joue gauche, il faut tendre la joue droite. Être passif? Être soumis, se laisser maltraiter. Alors oui, bien sûr, quand on ne possède pas la lumière qui donne la vraie puissance, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Mais cette bonne morale, qui est bonne pour les gens ignorants et pour les gens faibles, ne doit pas durer éternellement. Mes frères et sœurs, il est écrit nulle part que les gens bien, les gens sages, les fils de Dieu, doivent toujours accepter d'être tourmentés, massacrés, pour pour laisser triompher les imbéciles, les malhonnêtes, les méchants, les soupçonneux, les fanatiques religieux, etc., etc., etc. Il ne faut pas subir, parce que subir, c'est la situation des esclaves. Et nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des fils de Dieu. Amen. Moïse avait énoncé la règle, œil pour œil, dent pour dent. Ça ne change rien. Hein? Et puis Jésus est venu pour enseigner une nouvelle morale. Au lieu de répondre toujours avec la pierre, avec le couteau, avec l'épée, les humains devaient apprendre à utiliser des moyens plus nobles. La patience, la miséricorde, l'amour, le sacrifice. Mais 2000 ans ont passé, mes frères et sœurs. Et Jésus va revenir, et il va rétablir la loi de Moïse. Parce que les humains sont des bas de plafond, parce que les humains sont des grosses brutes épaisses, parce que les êtres humains sont des êtres féroces, parce que les êtres humains sont des ingrats possédés par le mal, qu'il n'y a rien à en tirer. Et il y aura, nous dit la Bible, du sang jusqu'aux morts des chevaux. De par l'œuvre de Dieu. Et à nous qui vivons les derniers temps, les derniers jours de sa patience, parce que c'est les derniers jours de sa patience, c'est-à-dire que c'est pendant les jours de sa patience qu'il nous dit qu'il faut tendre l'autre joue, c'est ça que ça veut dire? Attendez. À nous qui vivons dans les derniers jours de sa patience, il nous donne ceci. Lorsque vous subirez une injure, ripostez! Avec une telle force de caractère, avec une telle sagesse, avec un tel amour, que votre ennemi sera terrassé, foudroyé sous votre pouvoir. Ésaïe le dit, et Ésaïe, c'est parole de Dieu. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ésaïe 54, 15. Cela signifie-t-il qu'on doit massacrer ceux qui nous font du mal? Non, bien sûr. Notre force, celle du Saint-Esprit, celle de la lumière, celle de l'énergie, va plier nos ennemis jusqu'à les transformer, jusqu'à les régénérer. Vous ne les tuerez pas, vous les vivifierez. Et là, votre ennemi comprendra ce que c'est que la vraie lumière, la vie spirituelle, la vraie vie spirituelle. Nous ne devons pas faire de mal à ceux qui nous font du mal, mais nous ne devons pas non plus accepter continuellement la situation d'éternelle victime. Il y a une meilleure méthode. Apprendre à neutraliser en prenant l'exemple sur le soleil. Jésus est le soleil de justice, nous dit la parole de Dieu. Et le soleil projette une telle lumière que lorsque ils voudront vous attaquer, ils seront soudain éblouis, aveuglés. Regardez le soleil de justice, regardez Jésus. Il laisse faire un moment, et puis, il fout Saül de Tarse par terre et aveugle. Oui ou non? Et ensuite seulement, ensuite, après l'avoir terrassé, après l'avoir fait tomber sous son pouvoir, après l'avoir aveuglé, c'est-à-dire après l'avoir réellement rendu aveugle, hein, par une projection de lumière, d'énergie, il lui a ouvert les yeux au travers d'une tierce personne. Il vous soupçonne d'injustice? Confondez-les avec votre justice terrestre et céleste aussi. Pas seulement votre justice terrestre, le fait que vous êtes honnête, vous pouvez le prouver d'une façon terrestre, mais ça ne les convaincra pas. Ce qu'il leur faut, c'est une conviction qui leur vient du ciel. Une démonstration de puissance. Est-ce que Paul a continué à persécuter Jésus? Non. Jésus lui a mis une bonne claque dans sa gueule. Une bonne claque de lumière. Et c'est ça que vous avez à faire, parce que Jésus a dit tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, vous pouvez le faire aussi. Jean 14, 12. Une telle morale, c'est de ne pas rester à la merci des gens violents, cruels, bêtes et méchants. À un moment, et puis à un autre moment, après avoir reçu une bonne claque, là, par la puissance du Saint-Esprit qui est en vous. C'est devenir comme le soleil de justice qui ne projette que chaleur et lumière. Saul de Tarse n'en est pas mort. Quand ils viendront avec leurs accusations fausses, ils fondront comme la cire autant que leurs accusations fondront. Vous savez, si les chrétiens ne savent pas encore utiliser l'arme de la lumière, c'est parce qu'ils n'ont jamais vraiment cru à son efficacité. C'est tout, c'est que ça. Je vous baptiserai de feu. Alors, sous prétexte que Jésus a dit de tendre l'autre joue, la plupart ont adopté la philosophie de la passivité. Eh bien, vous pouvez tendre toutes les joues que vous voulez, ça ne résoudra rien du tout. Rien du tout. Vos ennemis continueront à vous donner des gifles et à la fin, ils vous assassineront. Bon, maintenant ça demande des explications. Je vais vous donner des explications. D'abord, il faut commencer par comprendre quelle est la nature de cet autre joug dont parle Jésus. C'est un mot symbolique. Est-ce que vous avez déjà eu un ennemi qui vient vers vous puis qui vous donne une gifle? Moi, ça ne m'est jamais arrivé, hein. C'est donc un symbole, c'est pour dire, voilà, quelqu'un qui vous frappe, quelqu'un qui vous fait du mal, quelqu'un qui, voilà, qui vous frappe, c'est une image. L'autre joue. Qu'est-ce que c'est l'autre joue alors? Eh bien, c'est l'autre côté de vous-même. Le méchant frappe ce qu'il voit ou ce qu'il croit voir. Voilà le secret, mes frères et sœurs. L'autre joue, c'est le côté que votre ennemi n'a pas vu. Votre esprit, votre justice, celle que Dieu vous a acquise. Il vous accuse, disant que vous n'êtes pas pardonné, parce que si on te dit, tu n'as pas pardonné tes frères, ça veut dire, Dieu t'a pas pardonné, puisque Dieu ne nous pardonne que quand nous avons pardonné nos frères. Si quelqu'un vient te dire, oui, tu es un méchant, tu n'as pas pardonné tes frères, ça veut dire, Dieu t'a pas pardonné. C'est une accusation qui vient du fin fond de l'enfer. Il vous frappe comme ça, tendu lui l'autre joue, c'est-à-dire celle qu'il n'a pas vue, votre justice en Jésus-Christ, la puissance de l'Esprit qui est en vous. C'est le côté de votre puissance réelle en Jésus-Christ, c'est votre côté de lumière. Tendez-lui ça. Mais Michel Jonton, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter pour une nouvelle hérésie? Écoutez, si vous pensez que je vous donne des hérésies, allez écouter d'autres prophètes, il y en a plein sur Internet. Hein. Écoutez plutôt ce que je vous dis et réfléchissez un peu. Voyons ce que je vous dis à la lumière des Écritures. Comment Jésus présentait-il l'autre joue? Comment? Comment présentait-il son autre côté à ses ennemis, c'est-à-dire le côté que il n'avait pas vu, il n'avait pas soupçonné, il n'y avait pas pensé? Oh! Qu'est-ce qu'il leur dit Jésus? Je paraphrase, hein? Il leur dit, vous avez le pouvoir d'emprisonner mon corps physique, de le fouetter, vous avez le pouvoir de le flageller, vous avez tout ça, vous avez le pouvoir de le crucifier, mais je vais vous montrer l'autre côté, le côté sublime, indestructible. Je reconstruirai mon temple en 3 jours. Jean 2, 18, 22. Voilà. Vous pouvez frapper sur ma joue. Mais quand il a montré l'autre joue, l'autre côté de lui-même, la terre entière en a été bouleversée et encore jusqu'à aujourd'hui. Amen. Quelle gifle à ce monde diabolique, religieux, fanatique, idiot, se croyant les seuls à posséder la vérité. Quelle gifle. Simplement en tendant l'autre joue, en montrant l'autre joue, celle qu'il n'avait pas vraiment encore vue. Mes frères et sœurs, nous devons nous efforcer de manifester la puissance de l'esprit à travers notre savoir, notre amour et notre comportement. Manifester la puissance de l'esprit, ce n'est pas seulement guérir les aveugles. C'est aussi rendre certaines personnes aveugles. Jésus l'a fait, Paul l'a fait, Pierre l'a fait, Pierre a même tué Ananias et Saphira. C'est là, on ne va pas les tuer, nous Ananias et nous Saphira, on ne va pas faire ça, ils sont déjà morts. Notre véritable force, c'est là, c'est ça. Pourquoi rester faible? Pourquoi rester poltron? Pour se montrer des bons chrétiens évangéliques? Hein? Des bons chrétiens évangéliques comme ceux là-bas à Ouagadougou, qui sont en train de louer le Seigneur en même temps que nous, alors que le pasteur qui est sur l'estrade est en train de piner une bonne femme divorcée dont le mari travaille encore à l'hôpital de Ouagadougou, et puis sur l'estrade derrière lui, il y a le prophète là, qui a abandonné sa femme avec ses 5 enfants. C'est à ça que vous voulez ressembler, parce que eux, ils disent, il faut attendre l'autre jour. Ah, eux, ils l'attendent jamais, eux, ils frappent. Ils sont méchants, ils sont cruels, mais ils vous ordonnent, ils vous disent qu'il faut attendre l'autre jour. Faux, faux qu'ils sont. Eh bien, si c'est cela l'idéal de la chrétienté, jamais la chrétienté ne triomphera. D'ailleurs, elle est en train de s'effondrer. Avec cet idéal, le christianisme est en voie de disparition, et même notre civilisation chrétienne est en voie de destruction en ce moment. Il faut être fort! Puissant, dynamique, énergique. Il nous faut trouver dans l'exemple que nous donne Jésus le meilleur moyen de nous imposer. Le christianisme, mal compris, n'apporte rien. Mais alors, rien. Le véritable chrétien doit être armé. Mais armé avec les armes de Dieu, avec les armes de la Nouvelle Alliance, avec des armes surnaturelles. Si on t'attaque, défends-toi avec les armes de Dieu. La justice, pas seulement la justice qu'il t'a acquise, mais sois juste toi aussi. Il faut que toi tu sois juste. Et si tu n'es pas juste, tu demandes pardon. Et tu répares. Mais il faut que tu sois juste. Avec l'amour, il faut que tu aimes. Et si tu fais un faux pas, demande pardon, humilie-toi, et puis continue. Et ne te laisse pas accuser sans arrêt par les imbéciles. La lumière éclaire et éblouit, s'il faut, ceux qui continuent à t'embêter. Tout au long du cours de l'histoire, ceux qui ont guidé les peuples, ils ont dû commencer par leur enseigner la justice avant l'amour, la justice. Il y a des lois, elles sont là pour nous protéger. Elles protègent ceux qui sont justes, ceux qui agissent d'une façon juste. Si nous sommes justes, nous n'avons rien à craindre. Et ceux qui nous accusent de malversation devront le prouver légalement. Ils ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Moïse a commencé par la justice de la loi. C'était un progrès. Et quand Jésus est venu, il a dit qu'il existait quelque chose de supérieur à la justice. Il y a la bonté, il y a l'indulgence, il y a le pardon. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Parce que pardonner, ça résout rien. Ça résout rien sinon dans ton propre cœur. Je voulais chanter depuis des dizaines d'années. Quand tu pardonnes, ça fait pas de bien à ton ennemi, ça te fait du bien à toi. Parce que quand tu pardonnes, tu rentres dans la paix. Ton ennemi s'en fout que tu le pardonnes ou pas. Ça change rien à sa vie. Moi, je les ai pardonnés, les autres, là. Ça change rien à leur vie. Continue. Mais moi, je suis dans la paix. Et c'est ça qu'on doit faire. Mais on doit pas s'arrêter là. Ça sert à rien du tout. Ça change rien. Bien sûr qu'on doit pardonner, mais si quelqu'un vient t'attaquer, est-ce qu'il est interdit d'être plus fort que lui? Être plus fort qu'un ennemi, c'est lui faire sentir la supériorité de votre esprit. Voilà l'ambition que vous devez avoir, mes frères et sœurs. Votre esprit est plus juste que l'esprit de celui qui vous soupçonne. Votre esprit est plus juste que celui qui soupçonne le mal chez vous. Parce que celui qui soupçonne le mal chez vous, il n'a pas le bon esprit, puisque Jésus dit que quand on est dans l'amour, on ne soupçonne pas le mal. Amen. Votre esprit est supérieur. Montrez-le. Tendez l'autre joue. Montrez-leur. Montrez-leur cette joue-là qu'ils ignorent, qu'ils ne connaissent pas. Paul soupçonnait le mal. Paul, avant de s'appeler Paul, quand il s'appelait Saul de Tarse, Saul soupçonnait le mal. Il pensait très sincèrement que les chrétiens étaient mauvais. C'est pourquoi il les attaquait. Ces gens qui vous attaquent, ils vous attaquent parce qu'ils sont sincèrement, ils sont sincères, ils croient vraiment que vous êtes des pourris. Alors Saul de Tarse les attaquait. En les attaquant, il ignorait, parce que c'était un youpin borné, qu'il s'attaquait à Jésus. Hein, je vous ai déjà dit, moi je fais une différence entre les juifs et les youpins, entre les noirs et les nègres, entre les français et les frouzes, entre les... Voilà, hein, il y a une différence, c'est pas une question de race. C'est une question de... Il y a des crétins partout. Il s'attaquait à Jésus, il ne le savait même pas. Et Jésus lui dit, je suis Jésus que tu me persécutes en persécutant les chrétiens, tu me persécutes. Et Paul, Saul de Tarse, il ne savait pas, dis donc. Il était sincère. Et Jésus lui a mis la raclée de sa vie. Lui qui dit qu'il faut pas, qu'il faut pas. Il n'a jamais dit qu'il fallait pas foutre une raclée. Mais comment mettre la raclée? Pourquoi est-ce qu'il lui a mis la raclée? Parce que les chrétiens priaient pour que ça se passe, pour que Dieu les protège, pour que Dieu les délivre de Saul. Est-ce que vous croyez pas que les chrétiens priaient pour que Dieu arrête le bras méchant de ce juif foudingre de religion et mauvais comme une teigne? Vous croyez pas que les chrétiens se réunissaient en prière pour demander que Dieu le châtie, que Dieu l'arrête sur la route? Eh ben, ils ont été exaucés. Mais c'est leurs prières qui ont été agissantes. En priant, ils ont projeté la lumière qui a désarçonné Saul de Tarse et qui l'a foutu par terre. Bel et bien physiquement. Ces chrétiens persécutés ont montré l'autre joue. Ils ont prié. Ils ont montré le côté, ils ont montré la joue que cet idiot de Saul de Tarse ne connaissait pas. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Quand est-ce que les chrétiens vont-ils, quand est-ce qu'ils vont réaliser ça? Ils n'ont rien compris à ce que Jésus dit. C'est une bonne question, ça. Hein? Quand est-ce qu'ils vont réaliser? C'est-à-dire, quand est-ce qu'ils vont rendre cela réel plutôt que de se poser toujours en victime? Mes frères et sœurs, travaillez à cela. Puisque Dieu vous a parlé ce matin. Mettez-vous au travail ainsi et soyez délivrés de ce tiraillement continuel parce que les chrétiens sont tiraillés continuellement entre la tendance à riposter par la violence et à celle de se laisser maltraiter. On ne voit pas une troisième possibilité. Relisez l'histoire de vos ancêtres, relisez l'histoire des Camisards et comprenez, vous allez mieux comprendre. Il ne faut pas répondre au mal avec les mêmes armes que lui. Il faut monter au-dessus du mal en utilisant d'autres armes, mais en utilisant des armes. Vous êtes dans la forteresse, vous êtes en Jésus-Christ, votre forteresse. C'est une forteresse, mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller sur les remparts et de leur balancer la lumière? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Restez là planqué derrière les hautes murailles? En laissant les serviteurs de Dieu y aller tout seuls, monter donc sur les remparts et balancer leur la lumière par le Saint-Esprit, les foutant par terre au nom de Jésus et les mettant à genoux en disant « Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui es-tu? Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis Jésus que tu persécutes. » Quand tu persécutes Michel Janton et son équipe, c'est Jésus que tu persécutes. Ça leur fera pas de mal, ça leur fera que du bien. Ça les jettera par terre comme Saül a été jeté par terre. Et alors, ça lui a fait que du bien, ce crétin d'andouille. Et ça a chassé les éléments nocifs qui étaient en lui. Et ça chassera les éléments nocifs qui sont dans leur tête et qui sont dans leur cœur. C'est ça, présenter l'autre joue. Jésus est vainqueur, n'est-ce pas? En lui, si vous êtes réellement en lui, vous êtes donc vainqueur. Pourquoi est-ce que vous vous placez en victime? Sous prétexte que Jésus a dit qu'il faut tendre l'autre joue? Mais c'est parce que simplement vous n'avez pas compris ce que ça signifie. Et l'évangile mal compris ne sert à rien. Renforcez-vous avec cette pensée, mes frères et sœurs. Si vous vous laissez écraser sans réagir, les gens continueront à abuser et ils ne deviendront pas meilleurs. Ils se disent, ah, celui-là est faible, on va en profiter. Qu'est-ce que Jésus nous demande? D'être intelligent et fort, n'est-ce pas? Faites vos exercices de lumière chaque jour. Le but, c'est de ne pas faire de mal à nos ennemis, mais de leur faire prendre conscience que leur force est fausse, elle est néfaste, elle n'est pas inspirée par Dieu, même s'il y a du Jésus dedans, même s'il y a des espèces de prophéties dedans. Alors que nos armes sont celles de Dieu pour nous défendre. Et ça nous ramène à Ésaïe 54, 15, « Quiconque s'élèvera contre toi tombera sous ton pouvoir, sous ton pouvoir. » Quand Saul est tombé par terre, il est tombé sous le pouvoir de qui? De Jésus, bien sûr, mais aussi des chrétiens, qui priaient, qui utilisaient, qui ont montré l'autre jour en priant. Quiconque s'élèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Pas pour que tu abuses de ton pouvoir contre eux. Non! Juste pour qu'ils se rendent compte que leur erreur est immense et qu'ils changent. Ne vous abritez pas derrière la faiblesse. Elle ne vous sauvera jamais. L'ignorance ne vous sauvera jamais. La paresse non plus. Alors cherchez dans l'Écriture. Et exercez-vous en prenant modèle sur le soleil de justice, sur Jésus et sur tous les gens de foi. Qui est-ce qui peut toucher le soleil sans se brûler? Si on vous frappe sur la joue, tends l'autre et ton ennemi se brûlera. Comme Saul de Tarse a été brûlé. Saul de Tarse était un youpin. Et il est devenu un vrai juif à la gloire de Jésus. Amen. C'est pas ça que vous voulez pour vos ennemis, c'est pas ça que vous voulez pour ceux qui vous font du mal. Vos ennemis se tiendront à distance, ils n'oseront pas s'approcher parce que vous serez devenus forts. Parce que vous aurez été baptisés de feu. Vous savez, devant la puissance spirituelle, même Satan doit capituler. Alors j'entends d'ici certains qui vont me dire « Oui, mais... tout de même, je prends mon accent suisse parce que je trouve que ça fait un petit peu plus rigolo encore, mais je me moque pas, mais un petit peu quand même. Oui, mais tout de même, quand un ennemi voit que celui auquel il s'attaque tant l'autre joue, eh bien devant cette humilité, devant cette abnégation, il est tout confus, puis il va demander pardon à Jésus. J'ai eu un témoignage comme ça, mais c'était merveilleux. Oui, c'est vrai, il y a quelques témoignages comme ça. Mais dis donc, ouvrez un petit peu les yeux, regardez l'histoire de ce monde. Vous allez sur Google, vous tapez l'Observatoire de la christianophobie. Allez-y, ayez le courage. Vous allez être édifié. Les bourreaux ne se convertissent pas en masse, hein. Vous allez apprendre que 100 à 150 millions de chrétiens sont persécutés à l'heure actuelle. Le christianisme est la religion la plus persécutée au monde. Selon Porte Ouverte, toutes les 5 minutes, il y a un chrétien qui meurt persécuté. Puis vous venez me dire que devant l'abnégation et tout ça, les bourreaux vont se convertir. Mon œil, c'est arrivé 2-3 fois, mais c'est pas en masse. Certains vont se contenter de dire « Oui, mais ça doit arriver, c'est écrit que ça doit arriver. »«
Oui, c'est bien, vous avez raison, vous êtes là dans votre petite Suisse et votre petite France, là, bien tranquille, bien au chaud, avec tellement peu de problèmes à comparer de tous ces pays musulmans où on massacre vos frères et sœurs, vous avez la bouche en cul de poule en disant « C'est écrit, ça doit arriver. » Quand ça va vous arriver à vous, vous allez peut-être changer d'avis. Quand on viendra pour brûler, pour massacrer vos fils et vos filles, ça va peut-être vous faire changer d'avis. Oui, c'est écrit, oui, c'est annoncé, oui, ça doit arriver. Mais ce que je vous ai prêché ce matin, ça aussi c'est écrit. Qu'est-ce que vous allez faire? Tendez l'autre joue, mes frères et sœurs, la joue de lumière et de feu, celle du chemin de Damas. Pour le moment, nous avons l'occasion de nous exercer là où nous sommes, avec nos ennemis de pacotille. Ce n'est pas vraiment des ennemis, c'est des... Il n'y a pas de mot même. Oui, des ennemis de pacotille, voilà, c'est ça. Ils sont là, et vous devez utiliser les armes de Dieu avec puissance, vous devez vous exercer avec ça, hein, avec ce que vous avez sous la main, avec ces petits ennemis qui vous font des petits problèmes, des machins. Contre les ennemis, vous devez vous exercer.
Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas tellement puissants. Est-ce que c'est clair maintenant? Ce que je vous ai dit, ça contredit certainement l'idée bisounours que vous faisiez de la morale de l'évangile de Jésus-Christ. Mais réfléchissez, le jour vient et il est déjà là où vous serez obligé d'accepter cette vision des choses. Il n'y a que cela, s'exercer aujourd'hui, vite fait. Vous savez, en Suisse, l'armée, on ne la fait pas une fois dans sa vie, on la fait 3 semaines par an. On s'exerce. Allez en Suisse, vous allez voir. Les hommes vont à la gym, ils s'entraînent. Ils vont dans les camps de tir, ils s'entraînent. Il n'y a que les chrétiens qui s'entraînent à rien du tout. Exercez-vous sur vos ennemis actuels, ces pauvres gens qui vous font du mal. Projetez votre lumière sur eux, lumière de justice, d'amour, de force sainte, qui ne fait pas de mal, bien au contraire, en tout cas pas plus qu'à Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Exercez-vous sur eux, musclez-vous spirituellement, profitez d'avoir cette sorte d'ennemi un peu faiblard pour vous exercer sur eux, parce que bientôt, les vrais ennemis vont arriver. D'ailleurs, ils sont déjà là. Et puis aussi, profitez de vos ennemis intérieurs. Imposez à vos ennemis intérieurs cette façon de faire. Quand vous vous sentez découragé, quand vous vous sentez triste, quand vous vous sentez angoissé, ce sont souvent des entités hostiles qui vous harcèlent comme des mouches. Satan est appelé le prince des mouches, Belzébuth, c'est ça que ça veut dire. Ces mouches. Est-ce que vous allez vous laisser envahir par ces mouches? Par ces esprits de tristesse, d'angoisse, de découragement? J'en peux plus. Non! C'est le moment de leur montrer votre supériorité par des paroles de foi, par des actes de foi. Montrez-leur votre autre joue. Pourquoi rester là à souffrir? À quoi ça sert-il? Rien du tout. Manifestez l'autre côté de vous-même, montrez l'autre joue. La volonté, la force de caractère spirituel, la puissance de Jésus qui est en vous, l'Esprit de Dieu qui est en vous. N'acceptez pas de traîner des pensées et des sentiments qui vous affaiblissent et qui vous tuent. Exercez-vous contre vos ennemis intérieurs. C'est ainsi que vous arriverez à vaincre vos ennemis extérieurs aussi après par la suite. Jésus dit, présentez l'autre joue. Et puis il a dit aussi, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Matthieu 10, 34. Puis avec une épée, bon, qu'est-ce qu'on fait avec une épée? On se bat. Enfin, du temps de Jésus, c'était comme ça. Hein, il n'y avait pas les kalachnikovs. Qu'est-ce qu'on fait avec une épée? Alors, les chrétiens, quand ils venaient à la chapelle là, qu'on avait, il y avait une épée, à la place de mettre une croix, j'avais mis une épée, parce que la Bible dit que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Alors ils me disaient, vous avez mis une arme de mort. Oui, parce que la croix, c'est pas une arme de mort, peut-être aussi. Non, mais vous savez, il faut arrêter d'être bête, quoi. Jésus est venu déclarer la guerre aux ténèbres. Jésus est venu déclarer la guerre à l'ignorance. Jésus est venu déclarer la guerre à la bêtise, à la lâcheté, à la religion fanatique, qu'elle soit chrétienne, musulmane ou tout ce que vous voulez. Il est venu déclarer la guerre. Et ses armes, c'est la chaleur et la lumière, c'est-à-dire l'amour et la sagesse, les deux tranchants de l'épée, la vraie force qui jette Saül par terre et qui le rend aveugle, et puis qui finit par le guérir, afin d'en faire un véritable serviteur de justice divine. Amen. Jésus, veuille aider mes frères et sœurs à comprendre, à faire cette gymnastique intérieure pour comprendre ces choses, afin de ne pas rester des religieux béats, idiots, qui se laissent tout faire tout le temps, qui se passent en victime. Aide-nous, aide chacun d'entre nous à être véritablement des hommes et des femmes de foi fort, puissant, contre la bêtise, la méchanceté, la veulerie, la tromperie, le manque de reconnaissance contre toutes ces choses, la trahison et toutes ces choses mauvaises. Père, je te le demande dans le nom de Jésus, que nous puissions montrer notre autre jour. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons louer le Seigneur maintenant, chanter quelques cantiques. Je voudrais faire un chant sur ce thème-là. Ça serait bien que les musiciens s'approchent. Dieu vous bénisse. Amen.